Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une, le prix à payer pour maintenir les Jeux Olympiques de Tokyo, ce sera un protocole sanitaire très très strict.
Avec des règles précises à suivre avant et pendant les JO, certaines un peu inattendues, vous le verrez. La France a-t-elle raté l'occasion de produire son propre vaccin? Une start-up nantaise livrera en tout cas les Anglais en priorité. Sur le front du Covid, pas de nouvelles restrictions pour l'instant, mais des contrôles renforcés aux frontières depuis dimanche. On parlera aussi des policiers de la BAC jugés à Paris pour avoir racketté des dealers. Et puis, en football, le point sur les matchs en cours pour la 23e journée de Ligue 1.
RTL Soir.
Direction Tokyo, tout de suite où les Jeux Olympiques d'été sont pour l'instant maintenus mais sous condition d'un protocole sanitaire draconien pour éviter les cas de Covid. Le but c'est de protéger les sportifs et toute la population japonaise. Des règles strictes parfois insolites avant, pendant et après les Jeux, Isabelle Langer.
Pas question de crier ni de chanter pour encourager les athlètes. Même avec le masque, le risque de postillonner est visiblement trop grand. Il sera en revanche possible d'applaudir après s'être désinfecté les mains, hein, bien sûr. Je rigole, mais tout sera sous contrôle pour ces Jeux. J'en veux pour preuve, 14 jours avant d'arriver au Japon, il faudra télécharger une application et remplir chaque jour un bulletin de santé avec notamment prise de température. Il est aussi recommandé de voir le moins de monde possible à ce moment-là. Bien évidemment, un test négatif de moins de 72 heures est demandé pour poser le pied à Tokyo. Un nouveau contrôle pourra être effectué à l'arrivée et régulièrement pendant le séjour. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais alors il est fortement conseillé. Pas de quarantaine, mais les deux premières semaines au Japon, bien chacun devra remplir un planning quotidien de tous ses déplacements et s'y conformer. Impossible de faire un détour pour faire du tourisme ou du shopping, ni d'aller au restaurant et encore moins de prendre les transports en commun, juste les navettes officielles. Alors ce protocole est pour les fédérations internationales, mais il donne les grandes lignes pour les autres acteurs des JO. Il dévoilera notamment les règles sanitaires qui seront mises en place au sein du village olympique, ça promet.
Vous pensez que les athlètes seront rentrés pour Paris 2024 ou pas? Parce que on va décaler le temps qu'ils reviennent avec tout ça. Merci à vous Isabelle Langer. Autre rassemblement cette fois sur le thème de l'économie. La version singapourienne du forum de Davos qui était prévue au mois de mai, eh bien elle est reportée à la mi-août. Trop compliqué de se déplacer, surtout de se réunir avec les restrictions de déplacement différentes dans chacun des pays.
L'économie décidément bousculée par la pandémie de coronavirus, le nombre de créations de micro-entreprises bat un nouveau record en 2020. Près de 550 000 nouveaux auto-entrepreneurs, d'après l'INSEE.
Un nouveau projet de vaccin anti-Covid développé par une start-up nantaise. Elle s'appelle Valneva. Les premières livraisons se feront pas en France, elles se feront chez les Anglais.
La France a-t-elle raté le coche? C'est la question. Selon la secrétaire d'État chargée de l'industrie Agnès Pannier-Runacher, ce matin sur RTL, c'est la biotech qui a préféré se tourner vers nos voisins anglais.
Nous avons ouvert les bras à Valneva en leur proposant un certain nombre de financements. Ils ont considéré que ces financements n'étaient pas suffisants, qu'ils ne représentaient pas 100% du risque, comme cela leur était proposé au Royaume-Uni. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas du vaccin Valneva. Les chaînes de production sont mondiales et l'Union européenne a d'ores et déjà réservé 60 millions de doses de vaccin Valneva.
Nous leur avons ouvert les bras, d'après la secrétaire d'État. Côté nantais, on explique ce refus par un côté plus pratique. Franck Grimaud est le directeur général de Valneva.
Nous avons pu sécuriser dès juillet dernier une première proposition avec le gouvernement du Royaume-Uni, un financement non seulement des études cliniques et de l'investissement dans une nouvelle unité de production. Le fait qu'on ait une installation en Écosse déjà existante, dans laquelle on produit un vaccin depuis 12 ans, a été un élément déterminant, d'où le fait qu'ils aient réagi très rapidement. Ce qu'on pourrait dire pour l'avenir, c'est que il serait sans doute intéressant que, en plus d'une procédure de commande de vaccins centralisés, l'Europe soit dotée d'une agence de l'innovation, une agence de la santé qui ait à sa disposition 10-15 milliards d'euros et que dès qu'un problème de santé comme par exemple le Covid arrive, qu'elle puisse immédiatement investir sur 4, 5, 6 programmes de développement de vaccins comme a pu le faire le BARDA dès février 2020. Le BARDA est une agence américaine qui a investi auprès de plusieurs industriels. Donc ça, ce serait intéressant d'avoir cet outil en plus en Europe, mais les dialogues sont en cours et et c'est vraiment l'intention visiblement de la Commission européenne d'implanter ce type d'agence.
Des propos recueillis par Patrice Gabart à Nantes pour RTL. Les contrôles aux frontières s'intensifient pour lutter contre la propagation des variants. Pas de test PCR, pas d'entrée sur le territoire. Cela vaut pour le bateau, l'avion, mais aussi pour la voiture. Des escadrons de gendarmes mobiles sont déployés, notamment à Dell, à la frontière suisse. Samuel Goldschmidt, l'image est inhabituelle pour les frontaliers.
Oui, le retour des bouchons à ce point de passage très important déconcerte un peu ces gens habitués à passer normalement vite.
Ça bouchonne ce matin, j'ai rien vu, mais cet après-midi, ben là, c'est un quart d'heure que je passe. Mais bon, après, c'est pas plus mal, c'est comme ça. Moi, j'ai une attestation de mon employeur.
Qui est en Suisse.
Voilà, c'est ça.
Les contrôles sont systématiques, mais assez rapides. Ici, le chef de la division Franche-Comté des frontières, Marin Delage, a surtout affaire à un trafic pendulaire.
Bah, le but, c'est pas tant de réduire le trafic transfrontalier, c'est surtout d'éviter les brassages. Alors concrètement, quand quelqu'un qui est censé devoir nous présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures n'est pas en mesure de le faire et qu'il n'a pas de justification pour ne pas l'avoir fait, à ce moment-là, oui, en effet, on invite les gens à faire demi-tour et à retourner sur Suisse. Globalement, ça se passe plutôt bien. Par contre, ce qu'on voit fleurir, c'est des explications alambiquées ou convenues. Et c'est vrai qu'on a constaté sur un certain nombre de points de passage frontières que beaucoup de personnes nous déclaraient avoir perdu leur grand-mère ou leur grande-tante de ce côté-ci de la frontière. Donc voilà, il y a une sorte de seconde épidémie.
Les douaniers sont renforcés par des gendarmes mobiles, 54 pour le territoire de Belfort, mais c'est une grosse opération nationale. Le lieutenant-colonel Jean-Marie Loisier est le commandant en second des gendarmes du département.
Il y a 17 escadrons de gendarmerie mobile qui sont engagés sur toute la France sur ce contrôle aux frontières. Rien que sur la Franche-Comté, il me semble qu'il y a 143 points de passage qui sont contrôlés.
Et les gendarmes étendent leur contrôle aussi à distance des frontières, par exemple sur l'autoroute entre Belfort et Mulhouse.
Samuel Goldschmidt en direct de la frontière suisse pour RTL. Alors depuis le début de la crise, Emmanuel Macron a enchaîné les prises de parole, allocutions à la télévision, interviews sur le média en ligne brut, des rendez-vous pour s'adresser aux Français sur la situation sanitaire. Mais hier soir, surprise, le chef de l'État intervient sur TF1 à la fin du 20h en prenant tout le monde de court. William Galibert, changement de stratégie ?
Oui, quand on l'attend pour évoquer un éventuel reconfinement, il ne parle pas. Et quand on ne l'attend pas, le voilà. Hier soir, le président est donc venu répondre aux questions de la télévision entre deux portes à la sortie d'une réunion sur la production des vaccins. Pas de maquillage, pas trop de lumière, interview montée à la hâte et incertaine jusqu'au bout. Et pas besoin de chercher très loin le message. Je bosse, je fais bouger les choses et je vous tiens au courant tout de suite. Alors pour la petite histoire, hier soir, au moment où s'est exprimé Emmanuel Macron, tout le gouvernement était en pleine visioconférence avec le Premier ministre. On a appris ça à la dernière seconde. Je me demande même si Jean Castex était au courant, se marre encore une ministre. Mais l'Élysée se défend de la jouer solo. Non, on ne cherche pas à faire des coups de com', mais on s'adapte au jour le jour parce que cette crise est imprévisible, explique un conseiller du président. Il faut donc s'habituer à voir ces prises de parole semi-improvisées dans les prochaines semaines. La Marseillaise, le président assis à son bureau et les allocutions à 20h, ce sera seulement pour annoncer les très très mauvaises nouvelles.
Et jusqu'à preuve du contraire évidemment, William Galibert, du service politique d'RTL. Alors demain 18h, ça c'est prévu, c'est à l'agenda, il y aura une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex, avec le ministre de la Santé Olivier Véran. A priori, pas de nouvelles restrictions attendues, mais bon, la semaine dernière, on vous avait tous annoncé un reconfinement, on s'était tous plantés, donc on va rester prudent et on écoutera tout ça très tranquillement pendant RTL Soir. Petite pause et dans un instant, le procès des policiers de la BAC soupçonnés d'avoir racketté des dealers, ça s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris.
RTL. Easy. RTL Soir, Thomas Soto.
19h10, Aude Vernuccio, des policiers de la brigade anticriminalité, la BAC, jugés pour corruption et trafic à Paris.
8 personnes au total, dont 6 fonctionnaires soupçonnés de racketter des dealers dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Le procès commence aujourd'hui. La méthode est simple, un peu de tranquillité en échange d'argent liquide. Des méthodes de ripoux qui auraient été mises en place depuis des années, Alice Moreno.
Oui, des années de petits arrangements entre policiers et trafiquants qui aujourd'hui se font face au tribunal dans deux boxe distinct. Et plus les débats avancent, plus il est difficile de distinguer qui est qui. Le plaignant, eh bien c'est un trafiquant notoire extrait de sa cellule pour l'occasion. Il accuse la brigade anticriminalité de l'avoir volé. Face à lui, 6 policiers soupçonnés donc d'avoir racketté des dealers de la Goutte d'Or. Parmi eux, le brigadier Karim. C'est lui qui aurait récupéré l'essentiel des enveloppes de cash auprès des trafiquants. Les 800 000 euros que je touchais chaque mois en espèces, ce sont des aides de mon père, promet le quadragénaire. Au cours de l'instruction, instruction. Pourtant, plusieurs trafiquants entendus comme témoins parlaient bien d'argent sale. Si tu payes cette BAC, tu peux vendre tranquille, même des drogues dures. Pourquoi êtes-vous entré dans la police ? Demande simplement la présidente au brigadier Karim. J'en rêvais depuis tout petit, j'ai toujours trouvé que c'était un métier noble pour combattre les injustices, jure le prévenu. Mais la juge le reprend de voler. Avant d'entrer dans la police, vous avez été condamné pour rébellion et dégradation de véhicules de police. Pour quelqu'un qui a toujours rêvé d'en faire partie, avouez que c'est un peu surprenant.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL. Cette information qui vient de nous parvenir, une camionnette a percuté des piétons dans le quartier de la Défense à Paris cet après-midi. On déplore un mort et un blessé. L'auteur a été interpellé. On ne connaît pas encore ses motivations. L'enquête est confiée à la police judiciaire. Et puis il est soupçonné d'avoir abattu deux de ses anciennes DRH et une conseillère Pôle emploi la semaine dernière. On apprend ce soir que Gabriel Fortin, l'ingénieur au chômage de 45 ans, vient d'être transféré en hôpital psychiatrique près de Lyon.
Les sports, il y a du foot ce soir. Donc je vois Christian Olivier qui nous a rejoint. Plusieurs rencontres à suivre pour cette 23e journée de Ligue 1.
Entre autres, PSG Nîmes, Lens-Marseille dès 21h. En attendant, 5 matchs en cours depuis quelques minutes, dont Bordeaux-Lille, Christian Olivier.
Alors PSG Nîmes et Lens-Marseille, ce sera effectivement à partir de 21h. Ce sont deux des belles affiches de cette journée, sans oublier le déplacement de Lyon à Dijon, le derby de la Côte d'Azur, Monaco-Nice, puis vous savez, le choc des années 70 entre Saint-Étienne et Nantes. 5 matchs pour nous mettre l'eau à la bouche, effectivement, depuis 19h, et un seul but, malheureusement, pour l'instant. Strasbourg, grâce à Thomasson, qui mène face à Brest par 1-0, partout ailleurs 0-0, c'est-à-dire entre Metz et Montpellier, entre Reims et Angers, entre Rennes et Lorient, et c'est le cas également entre Bordeaux et Lille. C'est une belle affiche pourtant, Denis Grandjeou. Bonsoir.
Bonsoir Christian. Oui, une belle affiche entre Lille, leader de cette Ligue 1, et puis Bordeaux, 10e, qui va pas trop mal. Mais pour l'instant, c'est grosse domination lilloise, 0-0. Et c'est Jonathan Ecolet, notamment, qui a eu à deux reprises l'occasion d'ouvrir le score. Mais pour l'instant, Bordeaux tient. On se demande quand même combien de temps ils vont tenir. Les Girondins, 0-0. Christian, après 13 minutes.
Et ça ne fait que commencer, bien évidemment. On se fera un petit point à 19h30, si vous voulez.
Ah, mais et comment ? Vous bougez plus d'ici. On continue ensuite tout ça en fil rouge.
Merci de votre accueil.
Mais bienvenue.
Christian Olivier, chef du service des sports d'RTL. Et puis tiens, c'était il y a quelques minutes, on vous en parlait hier dans ce journal, l'ancien combattant centenaire, vous savez, Captain Tom, est décédé hier à l'hôpital. Il avait fait 100 fois le tour de son jardin en déambulateur pour lever des fonds pour les soignants britanniques. Applaudissements en sa mémoire partout dans le pays. Les Britanniques inconfinés qui applaudissent en hommage à Captain Tom. C'était il y a quelques minutes au Royaume-Uni.
19h là-bas. Enfin non, il ne doit pas être 19h là-bas. Il doit être 18h ou... Ouais, 19h heure de chez nous. Merci beaucoup.